Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la paracha, les parachiotes de Chukat Balak. Chukat Balak, ce sont deux parachiotes qu'on les met ensemble pour, comme on a dit plusieurs fois, pour rattraper, pour pouvoir, il y a un ordre, quand est-ce qu'il faut lire quand, et puisqu'il y a que 54 parachiotes et moins de Shabbatot disponibles, donc parfois on est obligé de mettre deux parachiotes ensemble. Obligé, mais il y a un rapport. Il n'y a pas de hasard dans le judaïsme, même lorsqu'on est obligé pour une raison technique ou autre, mais c'est très exact. Donc, certainement qu'il y a un rapport entre Chukat et Balak, même si ils sont deux parachutes assez différents. Mais quand même, le fait même qu'on le lit ensemble, ça veut dire qu'il y a un rapport entre les deux. Et aussi, c'est Shabbat, donc on a cette fête chassidique qui s'appelle la fête du Yud Bet Tammuz, la fête de la libération. Et comme on sait que dans le judaïsme, on aime bien les fêtes, mais les fêtes, c'est pas seulement qu'on mange un peu de bois, bien sûr. On essaye de s'approfondir, de penser à ce qui s'est passé, aux éléments qui sont liés avec la fête, et donc apprendre, changer, s'appliquer par rapport au message de ces fêtes ou de cette fête. Quand il s'agit de cette fête. Donc, on va quand même commencer avec la fête. Ça remonte à il y a 99 ans. Donc, il y a 99 ans, cette fête s'est passée, cette histoire s'est passée. Mais pour dire quand même qu'il y a des événements qui ne sont pas seulement des événements qui sont passés, et il faut fêter, il faut remercier Dieu pour que mon grand-père ou mon arrière-grand-père il a eu telle et telle fête. Il y a certaines fêtes, il y a certains événements qui changent la suite. Si, par exemple, on va voir encore, sans rentrer dans la politique, mais pour utiliser l'exemple, il y a des événements que si tel et tel pays ou telle armée ou tel gouvernement va pas faire tel et tel acte, alors, des années après, on ne va pas avoir des résultats importants pour le monde, pour le temps à venir. Et je pense que chacun peut comprendre de quoi il s'agit. Mais ça veut dire qu'on a besoin de ces moments pour changer des choses comme ça, grâce à ça, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, le monde il va être différent. Pourquoi? Parce qu'à tel et tel moment, il y avait tel et tel changement, telle et telle guerre, telle et telle chose, parce que le monde, quelque part, le demain dépend d'aujourd'hui, et aujourd'hui dépend de ce qui s'est passé hier, très souvent. Donc, alors, il y a des choses que ce qui se passe, ce qu'on fait aujourd'hui, va influencer la suite. Donc, alors, si là, dans notre cas, il s'agit d'une fête chassidique, donc, mais cette fête chassidique fait qu'aujourd'hui, on est là où on est, parce qu'il y a 99 ans, c'est passé ce que c'est passé. Alors, c'est vrai que c'est difficile à expliquer cette idée, parce que, bien, il y a pas mal de choses à comprendre. Il faut comprendre comment s'est passé le monde, il faut croire à certaines choses. Mais en tout cas, il y a dans certains domaines qu'on a vu que ça, c'est clair, que sans passer par tel et tel événement, on n'aurait pas eu été aujourd'hui dans la situation où on se trouve aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la même idée qu'on dit le soir de Pessah lorsqu'on raconte l'Agada. Alors, on explique à un moment donné pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui de fêter la sortie de l'Égypte, puisque c'est une histoire très ancienne. Quand même quelques milliers d'années, aujourd'hui on fête à tel point qu'il faut sentir qu'on est concerné, que c'est notre histoire, que ça se passe maintenant. On peut imaginer ce qu'on veut, mais est-ce que c'est vraiment des choses qui nous concernent aujourd'hui? Alors effectivement, ça c'est l'idée que sans la sortie de l'Égypte, il y a donc tant d'années, aujourd'hui, on n'aurait pas été dans la situation d'aujourd'hui. Encore, c'est des choses qu'il faut expliquer, mais il y a dans certains domaines où c'est évident comme ça. Sans que tel et tel fasse telle et telle chose, on n'aurait pas été aujourd'hui dans la situation développée, et beaucoup plus développée. Mais quand même, c'est basé sur tel et tel acte de telle et telle personne parfois, mais surtout dans tel et tel gouvernement, de telle et telle guerre, de telle et telle, etc., des choses, de différentes choses qui influencent le monde. D'ailleurs, ça, c'est une des bases du judaïsme. Alors, c'est vrai qu'on sait que notre monde est assez compliqué. Dieu, il a créé un monde compliqué. Et c'était prévu que le monde soit compliqué. Et d'une autre part, Dieu, il a créé un monde où on est censé faire pas mal de choses, avancer dans ce monde, avancer le monde. Donc, c'est parmi la croyance juive, d'une façon générale, les croyances chassidiques plutôt, qu'on avance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et il faut chaque fois trouver des solutions pour le moment. Mais c'est ça la vision juive qu'on avance. Alors retournons à notre idée principale de ce qu'on a parlé de le fait de la libération. Alors, c'était il y a plus de 100 ans, en Russie, qui était un pays énorme et qui a influencé sur beaucoup d'autres pays. Donc, elle s'est balancée vers le communisme. Mais le communisme, avec cette forme qui, peut-être les idées communistes, parfois, ils sont, on peut tolérer. Il y a certaines personnes qui aiment bien ces idées communistes. Mais le mais est grand ici. Je ne veux pas rentrer dans le mais justement, un point par rapport à ce mais, qu'avec le nom de ce qu'on s'appelle communisme, on a détruit, on a tué, on a fait tout ce qui est mauvais pour ceux qui ne pensaient pas comme le dirigeant. Si on ne suit pas dans ce mouvement, alors on est l'ennemi du gouvernement, on est l'ennemi du communisme, on est l'ennemi de tout. Donc, alors, ceux qui sont opposés, on a tout le droit de le faire tout le mal du monde. Et c'est ça que les communistes faisaient à l'époque, donc d'une façon générale. Mais d'une façon plus particulière avec les juifs et les juifs pratiquants. C'était terrible. En Russie, ils ont commencé à fermer, à interdire l'éducation juive ou bien d'autres choses, mais surtout l'éducation juive qui dérangeait, parce que les vieux ils vont à la synagogue, c'est le dérangeait peut-être, mais c'était pas dramatique pour eux, parce que les vieux ils sont vieux, ils vont partir et donc il y aura plus rien. Mais que les jeunes ils pratiquent le judaïsme, ça c'était quelque chose de terrible pour eux. Il y a beaucoup de choses. On a encore des gens qui vivent aujourd'hui, qui ont vécu cette période, et parce que cette période a duré encore et encore, et il y avait des périodes invivables. Et il y a beaucoup d'histoires. Comment, à telle fois que c'était dramatique. Et je me rappelle d'une petite anecdote, que c'était encore il y a 40 quelques années, que les gens ils ont eu très peur de pratiquer. Donc il y avait quelqu'un qui posait une question autour de cette idée. La question n'est pas importante ici, mais il allait de temps en temps à la mer, donc baigner, mais pas pour baigner, pour la baignade, mais parce qu'il était, il savait qu'il était poursuivi, il était suivi par des agents communistes qui étaient toujours derrière lui. Et la seule façon comment il aurait pu être un petit peu éloigné, c'est lorsqu'il est rentré dans la mer et il était un petit peu éloigné, donc il était tranquille. À tel point, c'était grave et difficile. En tout cas, bien sûr qu'il y avait des gens, qu'est-ce qu'on fait si on veut garder le judaïsme en Russie? Alors il y avait un problème. Quitter la Russie, c'était interdit. Non seulement que c'était interdit, mais c'était quelque chose qu'on considère comme un non-fidèle, quelqu'un qui quitte la Russie. C'était, en tout cas, c'était interdit, c'était un crime. de quitter, de vouloir quitter le pays, et rester, appliquer leur volonté, c'était compliqué. Donc, s'ils veulent pas qu'on soit juif, alors qu'ils nous laissent partir. Là aussi, ils ont pas laissé partir, et les gens qui voulaient partir étaient aussi torturés, ou bien de différentes manières qu'ils ont fait parfois. Donc, la situation était dramatique. Et, alors, il y avait des gens quand même qui arrivaient à quitter pour de différentes manières. C'était pas simple, mais on a trouvé parfois des solutions. Parfois, c'était une période où on l'appelait le rideau de fer. C'était tellement difficile et pas impossible presque de quitter la Russie qu'on l'appelait le rideau de fer. Mais il y avait des gens quand même qui arrivaient, en tout cas au début, de tout quitter. Mais il y avait des gens qui n'arrivaient pas. Une autre solution était de carrément ne pas pratiquer, ou bien de pratiquer en cachette, mais ne pas faire le pire, garder l'éducation des enfants. Et la personne qui a fait un armée énorme, c'était le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui lui, il a lutté contre le communisme, contre les communistes, en tout cas dans leurs idées d'effacer le judaïsme. Il a envoyé des gens en sachant qu'ils risquaient leur vie, mais pour le but de garder le judaïsme, ils ont tout fait. Il y a des choses, des livres dramatiques sur cette période. En tout cas, il a gardé le judaïsme là où les communistes ils ont fermé, le rabbi l'a ouvert en cachette, mais il y avait toute une méthode comment faire, comment se cacher des yeux du judaïsme. Il y avait tout un système. Et aussi, lorsqu'on envoyait quelqu'un quelque part, les gens ne savaient pas grand-chose. Ça veut dire que chacun savait ce qu'il doit savoir, mais pas plus que ça, parce qu'il y a un risque qu'un jour il y aura une pression, et comme les Russes savaient faire des pressions, et les secrets vont sortir. Donc alors chacun, lorsqu'il a fait quelque chose en faveur d'éducation, il savait une partie, mais pas tout. Donc il y avait toute une organisation qui s'est créée grâce au rabbi. Mais le rabbi l'a fait plutôt en cachette, mais ce n'était pas aussi caché que ça. Les communistes, ils savaient ce qu'ils font, mais ils ont évité, parce que le rabbi il était une personnalité, leur image devant le monde était importante. Que le monde ne sache pas ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, c'est pour ça qu'ils ont gardé pas mal de synagogues qui l'ont dirigé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas laissé faire, ils n'ont pas été d'accord que ça va être dirigé par des gens pratiquants. Et c'était les gens des rabbins, etc. Et même si il y a certaines personnes priaient là-bas, mais c'était très compliqué. Surtout les vieux, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font à la synagogue, etc., etc. C'était très, très compliqué. Donc le rabbi, il a lutté. Finalement, alors, comme on a dit tout à l'heure que le gouvernement russe évitait d'attaquer au rabbi même parce qu'il avait une renommation internationale, donc ils ont évité. Finalement, ils l'ont pris en prison pour le but de le tuer le jour même. Finalement, pour un événement par hasard, comme ça, même s'il n'y a pas de hasard dans le judaïsme, il n'a pas passé par le chemin de la mort. Donc il est resté, mais le moment où il était en prison était dur et très très difficile, comme il raconte dans ses mémoires. Finalement, il était libéré, mais pour aller en exil, c'était le 3 Tammuz, donc il a 99 ans. Et ensuite, il devrait rester dans cet exil, que c'était déjà quelque chose de positif, parce qu'ils ont prévu de le tuer, finalement ils ont été obligés. Donc, ils ont annulé ce décret pour 10 ans d'exil compliqué, invivable. Mais finalement, ils ont changé pour 3 ans d'exil. Exil, tout simplement, ce n'était pas la Sibérie, ni des endroits reculés que ça, mais ça a été quand même un endroit reculé, loin de la communauté juive. Comme ça, le rabbi, il n'avait pas la possibilité de continuer à faire, à développer, à influencer. Mais finalement, au bout de presque plus que 10 jours, il était libéré. Et c'est cette fête qu'on fête chez nous, que le rabbi était libéré. Alors, que le rabbi était libéré, c'était important, bien sûr. La personne de rabbi était très importante. Mais ensuite, le rabbi, il a écrit pour la première fois, la première année, que cette fois-ci, il était au dehors de la Russie. Il était chassé de la Russie parce que les Russes, ils n'ont pas voulu qu'il aura une influence sur les Juifs de la Russie. C'est qu'il a continué à faire, mais de là où il était. Donc, il a écrit une lettre en disant que ce n'est pas moi qui étais libéré. Ce jour, c'était toute la communauté juive. Ce qu'il a dit, mais ce qu'on voit aujourd'hui, que par la méthode, par la façon, par l'idée, mais aussi d'une façon miraculeuse, c'est des choses qui continuent. Et chaque année, on considère que ce jour, c'est un jour de miracle, et c'est comme ensuite pour ce qui s'est passé avant. Il y avait des années où le rabbi, notre rabbi, il a montré comment ce qui se passe aujourd'hui, c'est ensuite de ce qui s'est passé à l'époque, comme on le disait au début de cette émission, un petit peu, qu'il y a des événements clés qu'ils se sont passés il y a très longtemps, mais grâce à ces événements, ce qui se passe aujourd'hui peut se passer. Donc là aussi, c'est considéré comme une fête de libération. Et cette fête, on la fête aujourd'hui partout dans le monde, en considérant que la libération d'hier, c'était la clé et la... Comment dire, il donne la possibilité d'être libéré encore plus. Donc, alors, c'est ça le sujet qu'on parle pendant cette Sefabringen. D'ailleurs, ça dure 2 jours parce que techniquement, il est sorti le 13 Tammuz, même s'il était libéré le 12 Tammuz. Et donc, il n'y a pas d'hasard, le fait qu'il était libéré le 13. Donc, d'un coup, on a 2 jours de fête. Et il y a d'autres idées autour de ça. En tout cas, c'est un jour de fête. Et c'est le jour de fête, comme on a dit tout à l'heure, de la libération. Il y a des difficultés, mais on arrive à surmonter les difficultés. C'est ça le symbole de ce jour. Qu'on arrive finalement, malgré les difficultés, surmonter les difficultés, surtout par rapport à cette idée de développer le judaïsme, même si c'est difficile, et surtout développer l'éducation juive, même si que parfois c'est impossible. Et l'exemple même, c'est que le rabbi, ensuite notre rabbi, et le rabbi précédent, ensuite notre rabbi. Mais le rabbi précédent, lorsqu'il est arrivé en Amérique, c'était une période difficile pour le judaïsme. Oui, il y avait beaucoup de gens pratiquants qui pratiquaient, qui sont venus en États-Unis, mais ça n'a pas duré. La deuxième génération était moins religieuse, la troisième génération, il n'y a plus rien. Et là, le rabbi a changé les données. Ça veut dire que, comme on raconte, que lorsqu'il est arrivé, il est arrivé beaucoup plus tard, il est arrivé au début de la Deuxième Guerre mondiale, et il est arrivé d'ailleurs à passer par l'Allemagne nazie pour fuir la guerre. Et c'est très intéressant, cette image, cette histoire. En tout cas, lorsqu'il est arrivé en Amérique, il a annoncé qu'il y avait des rabbins, il y avait quand même des rabbins là-bas, qui sont venus pour lui annoncer, pour lui souhaiter la bienvenue. Et le rabbi, il a dit son projet, qu'il veut ouvrir une yeshiva, un centre d'études des jeunes, comme on avait l'habitude jusque-là. Et ce grand rabbin disait, rabbi, votre honneur est très important pour nous, l'honneur de Lubavitch est très important pour nous. Donc on veut vous dire, ne faites pas des allusions, ça ne marche pas en Amérique. En Amérique, le judaïsme ne tient pas. Le rabbi, il raconte lui-même qu'il a beaucoup pleuré cette nuit-là, mais il a décidé qu'il ne va pas attendre la yeshiva qu'il voulait faire, il va le faire tout de suite le lendemain. Et il a ouvert, et il a changé l'Amérique. Et l'Amérique, aujourd'hui, donc, elle est beaucoup plus, parfois, religieuse, en tout cas au niveau du judaïsme, au niveau aussi général, que beaucoup d'autres pays, les pays de l'Europe parfois, on est influencé en tout cas par rapport à cette idée, par cette force, cette idée qu'on peut être moderne, très pratiquant. Donc ça, c'est une idée que le rabbi a beaucoup développée. Et donc c'est ça un petit peu l'idée de la fête, de ce qu'on fait, d'une part on fait le passé, et en même temps, en fait, le présent, en sachant que la libération qui s'est passée à l'époque, elle se passe aujourd'hui. Et on espère, plus qu'on espère, on sait que chacun qui a une difficulté au niveau
de développement de éducation juive, que c'est ça un petit peu le sujet du jour, le jour même lui donne une force. 7 jours de libération lui donne une force. En tout cas, ça c'est un petit peu la ligne générale de ce que c'est cette fête. Maintenant, on va retourner à notre paracha. On a 2 parachiot. Il y a une paracha qui s'appelle Chukat, il y a une autre paracha qui s'appelle Balak. La première paracha, en quelques mots, de ce qu'il s'agit, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets dans cette paracha. Contrairement à ce qu'on a vécu dans les dernières parachiotes, qu'il y avait surtout un sujet, en vérité 2 sujets surtout, les problèmes, quelque part, sa réparation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets. On commence par la loi de la vache rousse. Ça veut dire qu'il y a dans la Torah une notion de pureté et impureté. Et lorsque quelqu'un est impur, alors pour d'autres choses d'impureté, ça suffit de se plonger dans un mikvé. Mikvé, c'est un bar rituel. Mais pour, si on a touché, on avait un contact avec la mort, le contact, il y a de différentes manières, qu'est-ce qu'on appelle un contact, mais en tout cas, à ce moment-là, le bain rituel ne suffit pas. Et il faut avoir, il faut perger sur lui les cendres de la vache rousse. Donc une vache rousse qui est entièrement rousse. Et on l'a, après avoir la tuée, donc on la brûle, il y a les cendres qu'on met dans l'eau vivante, ce qu'on appelle l'eau de source. Et à ce moment-là, on aperge, comme ça, il devient pur avec le bas rituel. Mais c'est ça l'idée spéciale de cette impureté quand on a touché quelqu'un, que si on a touché un mort ou bien d'autres choses qui lient avec ça. Et ce qui est intéressant, donc, c'est en loi, quel rapport, qu'est-ce que c'est la notion d'impureté? Et comment on devient pur, quel rapport la vache rousse, quel rapport avec la cendre de la vache rousse, ou bien on a beaucoup de questions que la Torah ne nous explique pas pourquoi on le fait. Mais ce n'est pas la première fois, on a beaucoup de choses que la Torah ne nous raconte pas. On sait que d'une façon générale, il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont logiques, même si la Torah on aurait dû les faire, comme ne pas voler, ne pas tuer. Il y a des mitzvot qui ne sont pas du tout logiques, et même aujourd'hui, on n'a pas de raison. On le fait parce que la Torah nous demande. Et il y a quelque part un intermédiaire des mitzvot qui symbolisent, qui nous racontent des événements qui se passaient, comme la matzah à Pesach. Alors, on ne peut pas dire carrément que c'est logique, mais on ne peut pas dire carrément que ce n'est pas logique. C'est un symbole. On a l'habitude de faire quelque chose que ça va me rappeler telle et telle chose. Donc, alors, ça, c'est quelque chose de milieu. Le chok, c'est des mitzvot qu'on n'a pas de raison. On le fait parce que la Torah nous demande. C'est vrai qu'on fait confiance à la Torah, que c'est ce qu'elle dit, mais en même temps, nous, on n'est pas capable de comprendre. On a quand même un devoir d'essayer de comprendre, mais la Torah ne nous propose pas des explications. Alors, ça, c'est vrai par rapport à... Il y a beaucoup de mitzvot, donc des lois, qui rentrent dans ces catégories. Mais il y a une loi qui, non seulement, elle s'appelle la loi. Ça veut dire, parmi les autres lois, c'est la plus grande loi. Autrement dit, si les autres aussi, on comprend pas la raison, ici, c'est encore pur. On est encore beaucoup plus loin de la logique. Ça veut dire quoi? Alors, parmi les explications, voici. Il y a... des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Il faut dire que la majorité des gens et la majorité des choses qu'on fait, on ne comprend pas. Prenez l'électricité, la majorité des gens ne savent pas comment l'électricité fonctionne et pourtant on le fait parce que on voit que ça marche. Donc si ça marche, ça veut dire que c'est vrai. Donc il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait dans notre vie. On mange sans savoir comment ça fonctionne. Et pourtant, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. On rentre dans une voiture, la majorité des gens ne savent pas comment la voiture fonctionne, mais ce n'est pas grave. Ou bien le téléphone, ou bien beaucoup d'autres choses qu'on fait sans savoir comment, mais ce n'est pas grave. Mais il y a une autre catégorie de choses que non seulement que on ne comprend pas, mais le contraire, il y a des poids qui... Il y a des poids qui nous fait comprendre que c'est contre la logique. Donc il y a des choses que je ne comprends pas, mais il y a des choses que je comprends qu'il faut faire le contraire. Et pourtant, je fais le contraire parce que la Torah nous demande. Parmi ces mitzvot, donc ces lois, c'est la loi de la vache rousse, non seulement que je ne comprends pas, que c'est déjà difficile, mais je comprends dans certains domaines qu'il faudrait faire le contraire. Et finalement, on fait le contraire. Donc, alors, c'est la loi de la loi. Ça, c'est parmi les explications. Je n'ai pas développé beaucoup, mais il y a d'autres choses à dire. Et ça, c'est une base dans le judaïsme. Et c'est une base dans le monde en général. D'essayer de comprendre d'une part, et de faire même ce qu'on ne comprend pas d'une autre part. Ça veut dire qu'on sait que dans l'éducation, que si un enfant... Il fait seulement, il va attendre seulement à comprendre, et à ce moment-là, il va commencer à faire, ça va être une catastrophique. On dit à l'enfant, tu fais, parce qu'on te dit, lorsque tu vas être grand, tu vas comprendre. Ça, c'est une manière qu'on a toujours entendue, on a toujours fait, et ça, normalement, c'est une bonne chose, parce que si on va attendre que l'enfant, il comprenne qu'il ne faut pas faire telle et telle chose, ça peut arriver... des catastrophes en milieu, il ne va jamais arriver à cette période où il va comprendre. Donc ça, c'est une base pour toute civilisation, et ça, c'est une base pour la Torah. Donc c'est pour ça que ça s'appelle, c'est la loi de la Torah, quelque part, c'est la base de la Torah. Mais là aussi, dans le soudain, on ne peut pas dire qu'on comprend tout. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, et peut-être demain, on va comprendre. On fait confiance à ce que la Torah nous dit. Et cette période, cette fête qu'on dit, il y a des périodes où le judaïsme est très agréable. C'est très agréable. Il y a des gens qui ont du mal, mais ils aiment le système. Ils aiment le système, ils ne comprennent pas, ils ont des questions. Mais on aime le système. Le système du judaïsme est très... Elle protège la famille normalement, elle protège tout normalement. On aime vivre dans une communauté. Il y a beaucoup de belles choses que les gens, absolument, même les gens qui veulent quitter, si ça arrive, rarement, ça peut arriver, mais ils sont bloqués parce que le judaïsme, c'est quelque chose vraiment de beau, quelque chose de vraiment magnifique. Mais quand même, il y a des poids dans le judaïsme qu'il faut dire, il faut faire, je ne comprends pas, je le fais. Ça, c'est une base du judaïsme, comme la base de partout. Donc, alors, c'est ça aussi, l'idée d'être juif quand c'est facile, ou bien être juif même quand c'est difficile. Alors c'est ça un petit peu la fête de Y'B Tammuz, c'est cette victoire qu'on fait les choses même si c'est difficile. Donc on est juif, on est pratiquant même si c'est difficile. Donc c'est une victoire, que cette victoire elle se répète de temps en temps, parce que dire que c'est très très facile... Non, ça n'a jamais été facile d'être juif. En fait, il y a certaines choses, comme on a dit, que c'est plus facile, mais il y a des difficultés par ci et par là. Pas parce que c'est facile, c'est pour ça qu'on le fait. Pas parce qu'on le comprend qu'on le fait, mais parce qu'il faut le faire. Et ça aussi, ça fait partie de cette fête de Yutet Kislev, cette base, pardon, pas Yutet Kislev, de Betamouz, cette base qu'on le fait, on est tellement attaché à la chose qu'on le fait, sans comprendre, et ensuite on essaie de comprendre, mais cette base, donc alors, c'est grâce à ça qu'on a gagné le communisme et les différents ennemis d'Israël qui essayent de nous imposer des choses, et ils n'ont pas compris comment on était tué, même ce qu'on ne comprend pas. Donc ça c'est d'une part la première paracha, où il y a beaucoup d'autres choses intéressantes dans cette paracha, mais ça c'est le début de cette paracha. La seconde paracha, elle s'appelle Balak. Alors là, c'est une idée carrément opposée. Et Balak, c'était un homme qui, pendant une certaine période, sur le chemin pour rentrer en Israël, donc dans notre paracha, Israël était à côté de lui. Et il voulait pas, il n'a pas aimé Israël, donc il a essayé de maudire. Maudire. On peut maudire, mais est-ce que ça fonctionne? Alors, il y avait une personne dans cette génération qui s'appelait Bilam. Lui, il avait une force dans sa bouche
que tout ce qu'il a béni, il était béni, tout ce qu'il a maudit, il était maudit. Mais maudire aussi, il y a des règles, même quand on fait certaines choses qui ne sont pas analogiques, pas dans la normalité, il y a des règles. Pour ça, il doit développer son haine, l'haine contre la personne. Donc s'il veut maudire quelqu'un pour sa fonction, il devrait avoir ce sentiment de haine. À ce moment-là, ça a fonctionné. Exactement comme le contraire, on sait qu'il y a une possibilité, il y a la force de la parole. On peut changer des choses grâce à la parole. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Jamais maudire, essayer toujours de bénir, parce que la bénédiction est là en effet, sur la personne où on bénit. Mais ça fonctionne encore plus lorsque la bénédiction passe par l'amour. Si lorsque je bénis avec amour, c'est différent. C'est pour ça que les Kohanim, lorsqu'il bénit le peuple, lorsqu'il bénit, il y a des périodes dans l'année, il y a certains qui le font tous les jours. Alors il prononce cette idée, bénir les Bnei Israël avec amour. Parce que amour, c'est une condition pour que la bénédiction se réalise. Mais le contraire, la malédiction dépend de la conviction de la personne qui maudit. Et donc, Bilam, dans trois situations dans notre paracha, il essaye de se mettre en colère contre le peuple, il essaye de maudire le peuple, il essaye de développer des choses négatives, mais le miracle, c'est que finalement, il dit tout au contraire de ce qu'il voulait dire. Donc d'un coup, il part, il essaie de voir les choses négatives. D'ailleurs, on sait qu'il y a des gens, et deux personnes, là, il voit le négatif et l'autre, il voit le positif. Et là, donc, Bilam, il essaie, chaque fois qu'il essaie de dire quelque chose, il dit le contraire. C'est pas marqué clairement, on a des bénédictions, mais Rashi, à un moment donné, il explique que si vous voulez comprendre ce qu'il voulait dire, lisez ce qu'il a dit. Donc, ce qu'il a dit, c'était tout au contraire de ce qu'il voulait dire. Imaginez-vous, si vous comprenez, il y a des gens que vous n'aimez pas. Ça arrive malheureusement, mais on l'entend, passer par là. Alors, il y a des gens qui ne sont pas là, donc il y a des gens qui prononcent des choses négatives contre eux. S'ils sont nombreux, il y a cette expression que pour faire ça, ah là là, ils sont comme des cafards. Ou bien d'autres expressions. Par contre, si c'est quelqu'un que j'aime, alors je peux dire de belles choses sur lui. Et s'ils sont nombreux, je peux dire de belles choses. Oh là là, c'est comme des roses, comme de la verdure partout. La même chose, si je l'aime, je vois d'une façon, donc tout est opposé. Si je vois d'une façon négative et positive, là d'un coup, je le vois comme un parfum, comme des diamants, comme des choses positives. Et c'est un petit peu le sens de cette paracha. Qu'il veut dire le négatif, il essaie de développer le négatif, comme il le marquait dans la paracha. Donc, de plusieurs reprises, on pousse au bout de voir le négatif, il y a pas mal de poids où on peut se baser sur ça, et finalement, il dit le contraire. Et c'était ça le miracle. Quel rapport avec nous aujourd'hui, avec cette fête du Beth Amos? C'est que ça c'est parmi les bases de cette idée, que ça dépend comment on regarde, et on peut rendre des choses négatives et positives. Ça dépend de notre travail, ça dépend de notre regard. Alors, là aussi, il y a des périodes, comme cette période avant la fête du Beth Amos, que la période était dramatique. C'était impossible pour la Russie, pour les Juifs de la Russie, mais en vérité pour tout le monde. Et finalement, ce qui s'est passé en Russie est devenu un moteur de positivité pour le judaïsme mondial, et je veux dire aussi pour le monde en général. Parce que si le judaïsme va bien, le monde en général va mieux. Donc alors, c'est ça un petit peu le sujet de la fête, même si il faut beaucoup développer pour aller au-delà de ça. Donc alors, ce Shabbat, on va faire un Fabringen, donc on va fêter, on va essayer de comprendre cette idée, que cette idée, comme on a dit tout à l'heure, c'est la libération du rabbi, mais c'est pas la libération seulement du rabbi, la libération des idées. Qu'au moment où on a l'impression que tout est perdu, alors d'un coup, on gagne. Au début, on gagne d'une manière très, très limitée, mais ensuite, on gagne d'une façon plus développée, mais ensuite, carrément, on gagne.
Le monde a changé grâce à ses rabbis, au rabbi, à notre rabbi de notre génération, où le judaïsme est devenu quelque chose de fort. C'est vrai que ce n'est pas encore ce qu'il faut, on connaît nos problèmes, mais d'une façon de judaïsme, de chassidique, il faut voir, et on voit plutôt le développement que les problèmes. Il ne faut pas ignorer les problèmes, mais on voit plutôt le développement, on le voit dans chaque coin du monde. Donc, alors, c'est ça, cet esprit, avec cet esprit, on va fêter ce Shabbat. Alors, encore une fois, alors on vous souhaite un bon Shabbat, de bonnes fêtes, de libération, et que cette libération nous amène à une autre libération. Chaque personne a besoin de se libérer de quelque chose de négatif, et le monde en général, il a besoin de se libérer de tous ces mouvements négatifs qu'on a aujourd'hui, et nous amener, et arriver à cette période messianique où le monde va être entièrement libéré de tout problème. Merci pour votre écoute, Shabbat Shalom.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.